Mais seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs, en fait. Donc ton frère, pour moi, je pense qu'il a sûrement connu des moments de racisme.
Belle formule, Mélanie. Seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs.
C'est vrai.
Blanc reconnaît blanc.
J'ai trouvé mon deuxième tatouage.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip. Vous écoutez.
Le chip.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi ? Comme ?
Bonjour, vous écoutez Le Chip, le podcast afro-pop d'Arte Radio. Je suis Kevin Donna et comme un jeudi sur deux, je suis accompagné de Mélanie Wonga.
Bonsoir Kevin.
Et de François Oulak. Aujourd'hui, au sommaire de l'épisode, deux sujets. François va nous parler du documentaire sur Rachel Dolezal qui s'appelle, en français ?
Un portrait contrasté.
Et en anglais, The Racial Divide. Mélanie, on va faire un truc un peu différent aujourd'hui.
Oui, on va casser les limites, ouvrir l'horizon.
Courrier des lecteurs.
Exactement, je vais
répondre. Une question de Mélissa.
Tout à fait.
Métissage.
Sur le métissage.
C'est ça. Quoi de neuf depuis une quinzaine ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Le nouvel album de Kanye West est sorti, donc du coup je suis...
Du coup ça va très bien.
Immédiatement réhydraté, comme tu peux t'en douter.
Ouais, refait.
L'album est mortel, conformément à mes attentes. Ouais. Voilà, je vais pas relancer le sujet Kanye West et tout, on peut en parler sur Twitter.
Un mot. Ok, next.
Mélanie, à toi.
Je tenais particulièrement à remercier les auditeurs du Chip qui ont come through, comme on dit en anglais.
Ils sont venus en fait.
Voilà.
Ils ont rappliqué.
Suite à mon nouveau projet que j'ai annoncé qui s'appelle Waya, donc qui est une plateforme, un magazine féminin dédié aux femmes noires. Donc c'est très très cool. Toute l'équipe de Waya est super contente. Et voilà, merci à vous.
De la force.
Merci à eux.
J'ai eu une petite sciatique la semaine dernière.
Oula, la vieillesse arrive là.
C'est ça.
Il vieillit, c'est grave.
Et ouais, c'est ça. Et juin s'annonce hyper chargé avec plein de visites. Et après, repos bien mérité à la fin du mois de juillet. Donc j'ai hâte.
Tu pars en vacances ?
Je pars au pays.
Chanson de retour au pays natal. Tu sais ?
Non,
Admiralty. Non. Très bien, très bien.
Le trashico.
Trash ou iconique ?
Le trashico.
Le trashico.
Premier trashico, François, tu vas nous parler du beef.
Du beef, oui.
Entre Drake et Pusha T.
Entre Drake et Pusha T.
En espérant qu'il n'y ait pas eu de rebondissement entre temps.
Ouais, parce que ça bouge vite.
Ça se trouve, en ce moment même, il est en train de...
Drake a cassé la gueule à Pusha T.
Il est en train de pleurer en studio, plutôt. Ouais, bon, je vais pas vous embêter longtemps avec le beef. On dit plus clash depuis 2010, hein, les gens. Entre Drake et Pusha T, je pense qu'on a tous entendu les morceaux dans lesquels ils s'envoient des pics interposés. On a tous entendu le morceau Story of Adidon de Pusha T, dans lequel il atomise Drake en révélant avec une photo de Drake en blackface. Et en révélant notamment l'existence d'un présumé, parce qu'on ne sait pas s'il existe vraiment ce gosse après tout.
Adonis.
C'est un enfant caché présumé pour l'instant du côté de Drake. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ooh, Adonis is your son and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star, let her be your world. Yeah. C'est un peu frustrant de voir beaucoup de gens qui découvrent Pusha T avec ce beef. Pusha T, c'est quand même 15 ans de carrière, notamment voilà, aux côtés de son frère Malice au sein du duo Clips de Virginia Beach, qui a été donc produit et découvert par Pharrell Williams, qui n'est pas un inconnu, je crois, au bataillon. Un album classique qui s'appelle Lord Willing, des morceaux de ouf, What Happened to That Boy, Keys Open Doors, Mr. Me Too.
The Last Time You Heard.
Exactement. Enfin, les mecs ont ramené toute une identité, un son très original, donc j'aimerais bien qu'on le reconnaisse un petit peu. Il a été assez malin, et je lui donne un iconique à Pusha, parce que dans Story of Adidon, musicalement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça un peu naze.
Ouais, non, c'est pas ouf.
C'était pas fou.
T'es là pour les lyrics, en fait.
Exactement, et alors que Pusha a beaucoup de talent musical, mais là, bon, le son, on était vraiment là pour le thé, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'était plutôt malin parce que je pense qu'il a compris que pour pas se faire mic-miller contre Drake, il fallait qu'il aille tout de suite à la sulfateuse sur les faits personnels et les ragots parce que c'est ça aujourd'hui qui marche. Donc je donne un iconique à Pusha T et je donne évidemment un trash à Drake que je trouve bien stupide et qui devrait un peu mieux choisir ses cibles. Je pense que Drake, à force d'avoir du succès commercial, il a l'impression d'être un grand rappeur.
Il est invincible.
Un grand MC. Et Drake n'est pas un grand rappeur. Drake est un très bon artiste, c'est-à-dire qu'il a plein de qualités de songwriter, il trouve des mélodies, il choisit bien ses prods. C'est un mec qui a
influencé la pop culture.
Voilà, c'est une pop star, mais ce n'est pas le plus grand des rappeurs. Et en termes de rap pur et d'intégrité personnelle, il ne joue pas dans la même cour que Pusha T. Et j'espère que cette défaite lui servira de leçon. Donc voilà, c'est un triconique pour moi.
Oh wow.
Mel, tu voulais parler de la vidéo de Norman, qui fait des vidéos.
Norman, c'est un YouTuber riche et célèbre, donc, qui a fait fortune dans l'humour. Sa vidéo la plus connue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est celle où il se moque des bilingues. Et aujourd'hui, Norman, c'est quelqu'un qui casse un peu toutes les limites de l'humour autour des barbecues, des chats, des raclettes. Norman a récemment publié une vidéo appelée « Terrain miné ». Donc, « Terrain miné », Norman feat Jimmy Labeu. Okay. Donc Norman, dans cette vidéo, nous parle des dangers d'Internet.
Notre mission est très simple, faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique, ces sujets sont très sensibles.
Son truc, c'est tu peux même plus faire de blagues un peu racistes ou un peu sexistes sans te prendre un gif qui te regarde de côté et des gens qui te disent que en fait, ta blague, c'est de la merde. Donc tu vois, c'est quand même chaud, quoi, c'est dur. Voilà. Et aux côtés de Norman, qu'est-ce qu'on voit ? Non pas un ami noir, mais deux, qui sont comme lui en lutte contre la bien-pensance des pisse froids qui veulent pas qu'on se foute de la gueule des handicapés et des féministes. En gros, dans cette vidéo, il a mis deux amis noirs, une fille et un mec. Donc en fait, il est couvert de tous les côtés, il est intersectionnel, c'est bon, on peut rien dire.
Trop voilà. Woke.
La meuf, c'est Fadili Camara.
Ah, j'avais pas remarqué. Ouais. D'accord, ok. Ah, condoléances. Ok, donc... On va quand même signaler qu'un des autres sous-fifs de Norman, qui lui est blanc, se met à un moment donné de la terre sur le visage et...
Fais gaffe à toi, là. Ok, je me remonte à mon flageur.
Oh mon Dieu !
Quoi ?
Tu viens de faire une blackface !
C'est quoi ?
L'un des sujets les plus explosifs ! On va tous mourir ! Dépasse-moi ça tout de suite !
Non mais je savais pas !
Attention ! Un bombardement de mauvais commentaires !
Parce que, en fait, le vrai enjeu d'une blackface, c'est les blancs qui se font réprimander, hein. C'est pas les personnes à qui on rappelle une tradition extrêmement raciste tout le temps, en permanence. Et puis, l'autre, en face, il sait pas ce que c'est, donc LOL ! En fait, c'est ça qui est drôle !
En toute honnêteté, j'ai trouvé ce passage assez marrant.
Bah oui, mais le truc est écrit, la manière dont c'est écrit, c'est intenable.
Oui,
quoi.
Oui, non, mais c'est le seul passage que j'ai trouvé drôle, dont je tenais à signaler. Mais
on tient quand même, on peut aussi dire que ça nous fait une blackface dans une vidéo française en 2018, ça faisait quand même un peu longtemps qu'on en avait pas eu, et Edgy Plus a commencé à faire tourner ça sur les réseaux, donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. Moi, j'ai juste un petit message pour Norman, parce que je sais que Norman écoute le chip régulièrement.
Oui, bien sûr.
Donc Norman, t'es un peu vieux, t'es quand même un peu ringard, et franchement, si vraiment t'étais drôle, en vrai, je pense satiriser les trucs qui sont vraiment à risque, vraiment dangereux, genre les gens qui ont du pouvoir, l'extrême droite, les masculinistes, les films de Danny Boone... Les pizzas à l'ananas, je sais pas, mais vraiment, les trucs...
Ça, c'est vraiment problématique.
Les trucs dangereux, quoi, tu vois. Je décerne un trash de diamant, non pas d'or, mais de diamant,
de
à Norman, et voilà, quoi.
Je voulais rajouter un petit truc, il y a Blanche Gardin, qui a gagné un Molière, et qui a fait la fameuse phrase des proches, on m'a dit qu'il y a des juifs dans la salle, c'est pas grave, vous pouvez rester... En disant que c'était une façon de dire aux gens qu'on peut plus rien dire, qu'on peut le dire encore et qu'il faut arrêter le truc qu'on peut plus rien dire, c'est complètement faux. On n'a pas plus ou moins de liberté d'expression. Il y a juste toujours eu des choses.
Tu peux toujours dire les choses. Après, c'est les réactions que tu peux pas prévoir. Mais en vrai,
tu
peux dire ce que tu veux. Tu
assumes les conséquences et puis après, tu vois venir.
Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu faire de l'humour de gauche, que c'était pas forcément qu'il voulait justement se moquer des gens, mais en même temps c'était mal fait. Et,
non, mais en vrai, il est de droite, Norman.
Ouais, je sais pas. Mais oui,
mais il fait pas d'humour de gauche. Il a le droit, mais c'est pas du.
Non, mais t'as raison. Il y a un côté forteresse assiégée, quoi.
Ouais,
les blancs ont l'impression qu'ils sont dans une forteresse assiégée un peu.
Il y a
un truc qui m'a bien fait marrer en dehors du truc sur le blackface. C'est Fadili Camara qui justement est dans le régiment de Norman quand ils sont en train de traverser le champ de mine qui est Internet et qui moment enlève son casque et dit hey, les mecs, moi j'en ai marre là.
Là, je vais dans le nord, c'est beaucoup plus safe, y a pas de mine, pas de barbelés.
Et où elle va ?
Nom de Dieu, elle va dans la zone des podcasts. La raclette, faire les courses, tout ça. C'est une zone safe, mais au bout d'un moment, c'est fait un peu chier.
Ah, c'est vrai que c'est bien de la merde quand même.
Ouais, bon, des fois, je suis un peu allé quand même dans ma carrière, on va pas se mentir.
Mais c'est parce qu'il a pas écouté le chip.
Exactement.
Du coup, à toi, Kevy.
Je vais vous parler de quelque chose dont tout le monde a entendu parler. C'est partout. Depuis une semaine, C'est le Spider-Man français, pardon, le Spider-Man français.
Spider-Man.
Mamoudou Gassama, qui ce matin a reçu la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non, absolument pas.
Bon, mais c'est la plus haute distinction qu'on puisse recevoir de la ville de Paris.
Super. Wow.
Voilà,
super.
Le mec accumule les distinctions,
c'est
les honneurs.
Quand
tu n'as
jamais fraudé au métro,
tu as
ça ?
Certainement, Mélanie. et en fait, moi, sur quoi je voudrais revenir, c'est pas est-ce que c'est un héros, est-ce que c'est pas un héros, il a fait un truc héroïque, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les mèmes. C'est Internet qui se retrouve inspiré par Mamoudou. Moi, j'ai relevé quelques trucs marrants sur Twitter, notamment une illustration qui s'appelait Opération Asile Express. Et on voyait dessus sauver un enfant ou empêcher un attentat pour une régularisation express. Appeler la présidence de la République et son service de communication. Ils avaient droit à une naturalisation offerte. Donc voilà. Il y avait aussi beaucoup de gens qui dénoncent le côté communication, parce qu'il y a toujours eu des naturalisations pour des gens qui ont fait des actes héroïques. Je pense en 2002 à Mustapha Keïta et Nfamara Bangoura, qui étaient guinéens et qui avaient sauvé un enfant handicapé de la noyade.
Lassana Batili,
il y a 3 ans pour l'hyper cachère. Et il y en a toujours eu, mais là, ça se fait de plus en plus vite avec de plus en plus de com. Et
maintenant, il y a Snapchat, quoi.
Mais il y a un petit côté bullshit politique, récupération, qui est assez facilement visible, je trouve. Et oui, le truc qui m'a le plus fait rire, c'est Trevor Noah du Daily Show aux États-Unis, qui a fait une imitation assez dingue du, selon lui, le voisin français. Qui tenait le bébé, qui n'arrivait pas à le lever, qui en fait n'aimait pas trop le gamin parce que le gamin pleurait, l'empêchait de dormir le matin.
Oh, you are so heavy, I cannot lift you. It looks like you are going to fall and then I'm going to sleep in every morning. Oh no, what are we going to wait? What is that man doing? Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Okay, you saved the kid, well done. Oh.
Un iconique pour Mamoudou, un iconique pour les mêmes, mais quand même un petit peu de méfiance sur...
Un petit peu de trash pour le gouvernement.
Un énorme trash
Macron.
Pour l'État.
Mais non, mais je veux pas qu'on nous fasse boire le Kool-Aid, vous savez, l'expression... Tu crois, ouais, c'est super.
L'oasis tropicale.
L'oasis tropicale en version française. François, tu vas nous parler du documentaire de Rachel Dolezal qui est disponible en ce moment sur Netflix. Rachel, ça fait quelques années qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de lui foutre des petites claques. Est-ce que tu peux récapituler et nous expliquer tout ça?
C'est un très bon résumé, Kevin. Ouais, on a tous les trois maté donc le docu The Racial Divide, ou en français Un portrait contrasté, donc de Laura Brownson, qui est disponible sur Netflix. Rachel Dolezal, c'est une activiste de 36 ans, militante du NAACP dans une petite ville de l'État de Washington qui s'appelle Spokane. Pour vous situer, Spokane, ouais, c'est un peu moins de 200 000 habitants, donc c'est à peu près la taille de Lille, quoi. Donc c'est quand même une petite ville. Et le NAACP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande instance, un grand parti politique et militant, l'un des plus importants.
C'est le CRAN. À l'américaine.
Non, c'est pas les antiracistes, c'est des pro-black, et je pense que c'est vraiment différent.
Et puis ça a un siècle.
Et donc, cette Rachel Dolezal, elle a fait croire pendant des années à toute la société, y compris à ses collègues militants, qu'elle était noire. Et elle a été outée, donc, en 2015, par non seulement un journaliste local, mais aussi par ses propres parents biologiques.
Sa famille, ouais. Voilà. Oh tiens, un bus.
C'est un peu ça. Et donc, elle est devenue célèbre comme ça, et haïe dans le monde entier. Enfin, elle a fait pas mal de journaux un peu partout, et elle est devenue par le même temps un symbole de ce qu'on appelle la transracialité. Donc, le docu suit en gros la vie de Rachel Dolezal pendant plusieurs mois. Donc, on la voit à la fois en interview dans différents médias, on la voit également gérer sa vie de famille qui est devenue extrêmement compliquée. Sa vie professionnelle et sa vie de famille sont devenues extrêmement compliquées depuis que le scandale a éclaté. Elle ne peut plus travailler, elle arrive difficilement à vivre, elle arrive difficilement...
Elle était prof de Black Studies justement, elle s'est faite virer après.
Et maintenant elle tresse des cheveux.
Elle était également prof de Black Studies et en effet maintenant elle gagne difficilement sa vie en tressant des cheveux et en faisant des choses comme ça. Et donc on suit un peu sa vie au quotidien.
So talk to me, what's going on?
Your film... We're taking this risk. I'm putting my kids out there. I'm putting Esther out there. It's hard. And I'm trying to be the gatekeeper and keep... And then you're just, like, handing it over to somebody who can just, like, be a wrecking ball.
On assiste également aux répercussions que le scandale a eu sur sa famille. Elle a un schéma familial très, très compliqué, très complexe, on reviendra dessus, assez unique. Et donc on la suit comme ça, jusqu'à son changement de nom. lorsqu'elle décide de changer son nom, donc de Rachel Dolezal à Keshi Amaru Diallo.
Priceless.
Voilà.
Diallo,
donc,
quoi.
Donc déjà,
désolé pour les Diallo.
J'imagine que vous avez suivi déjà l'histoire à l'époque quand elle est sortie. Est-ce que, déjà, comment est-ce que vous avez trouvé le docu et est-ce que ce docu vous a un petit peu fait changer ou du moins nuancer votre avis sur Rachel Dolezal?
Le Rachel Dolezal, donc je connaissais déjà, j'avais déjà un avis sur la question. Le documentaire, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il donne la parole justement au bon moment. Je trouvais que le timing était très bien. Ils ont donné la parole au contradicteur de Rachel Dolezal pour remettre un peu de bon sens dans cette espèce de folie qu'est sa vie. C'est un personnage hyper créatif. Elle est tout le temps en train de coudre, de peindre, de tisser, de faire des trucs, mais elle
c'est
est dans...
C'est pas dégueulasse.
Non, en plus.
Non, c'est une bonne artiste.
Mais elle est dans un délire assez incroyable, et quelle que soit sa position, le premier truc, c'est qu'elle est dans une démarche hyper autodestructrice, où quand tu es dans une espèce de truc comme ça, t'es pas obligé de mettre des photos de ton bébé. Quand t'es sur Instagram et Twitter, quand t'es au milieu d'une tempête comme ça, en attendant l'approbation des gens, quoi.
Ouais, genre, la première chose que j'avais envie de lui dire, c'est meuf, désinstalle Twitter et Instagram de toute ta maison. Mais bon, bref.
Arrête.
Mel, t'en as pensé quoi, toi ?
Ça m'a aidé à comprendre d'où venait sa problématique, en fait. Et sa problématique vient du fait qu'elle a vécu beaucoup de traumas au cours de sa vie, notamment au cours de son enfance, et avec des parents évangélistes très durs, très extrêmes, et visiblement aussi des problèmes d'agression sexuelle.
C'est des chrétiens fondamentalistes.
Des problèmes d'agression sexuelle aussi par son grand frère. Enfin, elle a une vie très compliquée et elle a, je pense, essayé de dépasser ces traumas-là en se construisant une vision de l'identité noire qui pourrait potentiellement la sauver. Ouais. Avec tout ce que ça comporte de problématiques pour la véritable identité noire. Et j'ai compris ça, mais pour moi, ça excuse pas en fait ce qu'elle fait, en fait, et ce qu'elle a créé, qui est pour moi très nocif et surtout une conséquence du privilège blanc.
On y reviendra. Voilà. Faut savoir déjà que Dolezal, la transracialité, elle n'est pas toute seule. Bon, y a des gens, par exemple, comme Jadou, vrai prénom Adam, qui est un Américain d'une trentaine d'années qui vit en Floride et qui est persuadé d'être philippin. C'est-à-dire que depuis sa petite enfance, il regarde National Geographic. Et il a toujours adoré la cuisine, la musique, la culture philippine. Donc il affirme qu'il est philippin. Il conduit un tuk-tuk et il dit que voilà, c'est seulement quand il s'immerge dans cette culture qu'il se sent lui-même. Vas-y.
Sur ce point-là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre nationalité et race.
Tout à fait, mais... Oui, mais sachant que oui, mais en même temps, les Philippins sont des gens racisés, en tout cas par rapport à cet Américain qui est blanc comme... autre exemple, Waviki, c'est une Instagrammeuse et YouTubeuse de 17 ans qui prétendait sur tous les réseaux sociaux être noire.
Mais oui, elle dit le N-word.
Elle dit le N-word.
Le principal privilège quand t'es noir.
Voilà, c'est ça. C'est une sorte de caricature, vous savez, de la femme noire un peu ratchet.
My mom kept telling me you're white. I never believed her because I knew I was black. But July 19th, I did some history. I went to ancestry.com. And I found out I'm 25% black, and this whole time I knew it. I knew I was a black girl. So I just consider that to be my birthday because it's just a very exciting holiday for me.
Grande amie d'ailleurs de Bad Baby, vous savez.
Ouais. Catch me outside.
Catch me outside, how about that?
Exactement, Daniel Bregoli, et qui donc continuait à dire qu'elle était noire partout. Jusqu'à ce qu'elle se fasse arrêter par la police et que bizarrement elle change de ton. Et donc... Voilà, la transracialité, c'est quelque chose qui a l'air d'exister. En tout cas, il y a même plusieurs groupes Facebook qui s'en réclament. Mais ce qui est intéressant avec le cas Dolezal, comme tu le disais, Mélanie, c'est que l'histoire familiale de Rachel Dolezal et son histoire personnelle sont tellement complexes et son identification tellement sincère à la culture noire et qu'elle est allée tellement loin dans son mensonge que ça en fait un cas réellement intéressant. Déjà, faut savoir que Rachel Dolezal, ses deux parents sont blancs biologiquement, mais elle a tout un pan de sa famille, de ses frères et sœurs qui sont adoptés et qui sont noirs.
Et qui ont été éduqués par les parents blancs qui n'ont jamais pris ça en compte dans l'éducation.
Dans une ville à 90% blanche.
Voilà. Donc, en fait, comme tu disais, Mel, sa manière de s'identifier à la culture noire, c'est par rejet pour ses parents, mais c'est aussi pour se rapprocher de, des seuls membres de sa famille qu'elle aimait, c'est-à-dire voilà, son petit frère Isaiah, qu'elle a d'ailleurs adopté, elle est devenue sa tutrice légale, donc qui est noire. Voilà. Sa sœur, qui est également noire, et en plus, elle est sortie avec des... elle a eu des liaisons, des relations avec des hommes noirs, donc ses enfants également sont noirs, ou du moins métis, mais on va dire qu'ils sont du coup de l'autre côté. Et donc, ça en fait que moi, perso, au début, j'avais tendance vraiment à la voir comme une appropriatrice culturelle pure et dure, et je me suis rendu compte que le cheminement qui l'a mené à cette situation était tellement complexe et nuancé que je pouvais pas juste jeter le sujet et l'eau du bain avec, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Je suis assez d'accord avec toi sur ça, sur le fait que je pensais aussi que c'était juste une meuf qui un jour s'était réveillée, s'était dit « et si je devenais noire ?» et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
Je continue à penser que c'est problématique. Hein,
mais effectivement, elle surimprime des trucs sur l'identité noire.
Ouais, c'est ça.
Elle voit des choses qui ne sont pas là, en fait. Et elle sublime les souffrances comme si c'était beau parce que c'est quelque chose qu'elle peut contrôler. C'est une souffrance qui ne lui est pas arrivée à elle. Et donc, elle la magnifie. Et elle se dit, oh là là, c'est vrai, c'est beau, ils ont souffert. Elle dessine beaucoup d'esclaves dans son art et tout. Et c'est peut-être... ça lui permet peut-être de s'échapper de elle, ce qu'elle a vécu.
Mais j'ai envie de lui dire de se calmer sur les grosses généralités. En fait, pour elle, quand elle parle de blancheur, elle dit « Non, je ne veux pas retourner chez papa et maman qui sont méchants. » T'es là, ben, tous les blancs ne sont pas traumatisés par leurs parents. C'est bon, tu n'as pas besoin d'être noir.
Elle dit « Je ne m'identifie pas aux femmes blanches qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche. » Mais il y a plein de femmes blanches qui ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Ce n'est pas le fait d'être blanc qui fait ça. C'est la classe. Donc, en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui se mélangent dans sa tête.
Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. C'est vers la fin du docu. Donc, la réalisatrice qu'on entend en voix off lui dit « Bon, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que les Noirs se sont prononcés sur votre sujet et que
on a tranché
et qu'ils ne vous reconnaissent pas comme l'une des leurs, et donc que les Noirs gouvernent la négritude, gouvernent la blackness. » Et là, elle dit « Je ne porterai plus jamais de robe Amish, je ne serai plus jamais cette jeune fille du Montana avec grands yeux, et je ne subirai plus jamais le châtiment de mes parents. » Donc moi, ok, d'accord, tu as un problème, la blanchité représente pour toi tout ce que tu es chez toi et dans ton histoire personnelle. Mais en fait, pourquoi devenir noir, en fait?
Mais en plus, le vrai problème, et qui est d'ailleurs soulevé dans le documentaire et par plein de gens qui critiquent Rachel Dolezal, c'est que quand tu lui poses des questions, elle te dit « mais pour moi, la race n'existe pas et je veux montrer avec ma démarche, justement, que c'est pour ça que, en fait, que je sois noire ou blanche, ça n'a pas d'importance puisque la race n'existe pas. » Si la race n'existe pas, qu'est-ce que tu fais, meuf? Si la race n'existe pas, t'as pas besoin d'être noire, t'as pas besoin de te mettre des perruques, t'as pas besoin de te dire « je suis une femme noire à l'intérieur ». La race n'existe pas, c'est rien, c'est une construction.
Ça fait une semaine que je pense exactement la même chose, et je me disais même, en allant plus loin, soit la race n'existe pas et dans ce cas-là tu fais ce que tu veux avec tes cheveux et tu dis que tu ne vois pas de race derrière ce que tu fais, soit la race existe et dans ce cas-là
ben, t'es blanche
et t'es obligée, tu vois, t'es obligée d'être cohérente avec ton truc, tu peux pas naviguer entre les deux.
Son truc est bancal.
Il aurait pu juste être une alliée blanche comme on en a des tonnes, une blanche très propre sur elle qui
défend,
apprécie
qui
et qui soutient
au manif Black Lives Matter.
Voilà, la culture noire, il y a plein de gens qui le font, il y a plein de très bien. Elle aurait même pu devenir une sorte d'appropriatrice culturelle un peu gênante comme Kim Kardashian, ou une sorte de négrophile un peu problématique. J'aurais trouvé ça ok, il y en a plein, il y en a 13 à la douzaine, il n'y a pas de souci. Pourquoi devenir noire? Voilà, je pense que là les raisons sont plus... psychanalytique.
Oui, il y a un problème psychiatrique pour moi. C'est vraiment, elle a beaucoup, beaucoup souffert et je pense qu'elle devrait, essayer de voir des gens pour l'aider, parce que en plus, elle est dans un environnement où en fait, elle contrôle un peu tout le monde, ses enfants, c'est elle la maman, elle a un bébé qui vient de naître. C'est compliqué. En gros, elle a personne à qui elle peut. On parle à un moment de son daddy, là. Il y a un mec.
Sa figure paternelle, qui est
paternelle, un homme noir.
Qu'elle a rencontré il y a plusieurs années.
Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est entourée de gens qui l'unable. Je ne me souviens plus du terme en français, mais tu vois, qui ne contre pas suffisamment dans son délire, en fait, et qui disent pas suffisamment, mais quand même. Il y a son amie, à un moment, elle parle à une amie noire qui lui dit, elle lui dit, mais est-ce que tu es d'accord avec eux? Je comprends pas. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra me voir comme une femme noire? Et elle lui dit, oui, sur Mars, peut-être. Et je trouve ça très fort. Et d'ailleurs, à la fin du documentaire, il y a la chanson Life on Mars de David Bowie. Donc, c'est la boucle est bouclée, quoi.
Alors, il y a un autre passage qui est assez intéressant. C'est lorsque elle parle dans une conférence dans une université à l'invitation d'un professeur qui est un homme noir qui s'appelle Ronnie Glidden et qui lui-même se revendique comme une femme blanche. Pour lui, il estime que il est une femme blanche née dans le mauvais corps. Et toute la ligne en fait de Dolezal et également de cet homme consiste à dire que la race est une construction sociale qui n'a rien à voir avec la biologie. Donc pourquoi ne serait-elle pas fluide? Pourquoi ne serait-elle pas malléable? Pourquoi ne pourrait-on pas choisir sa race tout comme on choisit son genre? Aujourd'hui, en 2018, dans la moitié de l'humanité qui est à peu près progressiste, on va dire, on est d'accord pour dire que tu peux tout à fait naître dans le mauvais corps, être une femme dans le corps d'un homme et vice-versa, et que les personnes transgenres sont tout à fait légitimes à vivre leur vie dans la société. Pourquoi ce serait pas la même chose avec la race?
Moi, je sais que l'argument de dire la race, c'est social, c'est pas biologique, c'est pas tangible, c'est pas réel, c'est quelque chose qui me pose problème parce que, évidemment, c'est vrai, mais la nationalité non plus, ça se trouve pas par un test de sang. Pourtant, les nationalités existent et tu déclares pas ta nationalité comme ça pour rigoler.
Quand t'es transgenre, c'est pareil. Tu t'élèves contre la biologie dans laquelle t'es né.
Mais c'est pas vraiment pareil, en fait, parce que quand t'as une histoire des ancêtres, en fait, qui descendent, tu vois, dans le cas de l'identité noire, l'africanité, t'as des ancêtres, t'as quelque chose qui est transmis en termes culturels, mais pour le coup, pour moi aussi, en termes biologiques, mais surtout en termes historiques. C'est tout ce que la communauté noire a vécu. Tu ne peux pas arriver, et souvent, en fait, il y a vraiment ça. C'est les personnes blanches sont souvent attirées par ça, par ce côté « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont souffert ?»« Mais qu'est-ce que c'est un peuple, quand même, qui a résisté ?» Et c'est sur ça qu'ils s'attachent. Alors que l'identité noire, oui, certes, cette souffrance fait partie de l'identité noire, mais ce n'est pas tout. Il y a quand même toute une histoire, tout un héritage que tu ne peux pas t'approprier comme ça, du jour au lendemain, dire « Ah ben, en fait, c'est à moi, ça !» Alors que le genre et le sexe, c'est beaucoup plus personnel.
Descendant d'hommes et de femmes aussi, tu vois. Tu n'appropries pas un truc qui n'a rien à voir, tu vois. T'es une longue lignée d'hommes qui se reproduisent entre eux et un jour tu décides que t'es une femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la question des transgenres, je pense. Donc,
c'est pas le même mécanisme, ouais. En fait.
J'ai tendance aussi à penser que l'identité genrée et sexuelle, c'est quelque chose qui est plus intime, qui vient moins de l'extérieur.
Plus personnel.
Plus personnel, c'est ça. Et donc forcément moins sujette à des injonctions extérieures. Il y a un article très intéressant de Meredith Talusan dans le Guardian où justement elle répond à cette question pourquoi le cas Dolezal n'est pas comparable à la question transgenre. Elle dit tout simplement que les personnes transgenres ne font que devenir elles-mêmes lorsqu'elles réalisent une transition vers un autre genre, un autre sexe, alors que Dolezal fait un choix conscient de devenir Dolezal. Et d'ailleurs, on peut aussi évoquer les deux d'avant dont je vous parlais, Jadou, le faux philippin là, et puis Waviki et peu importe qui. C'est un choix conscient et basé sur l'appropriation culturelle. Donc je pense que c'est là où la différence fondamentale se trouve. Un autre argument que Rachel Dolezal évoque régulièrement en interview, Mélanie, tu voulais un petit peu en parler, c'est la question du passing. Rachel Dolezal parle du fait qu'il y a beaucoup de personnes noires qui pratiquent le passing,
ouais.
Qui ont pratiqué le passing, et donc elle dit qu'elle fait la même chose finalement.
Ouais, alors la notion de passing, c'est quand certaines personnes noires ou métissées noires passent pour des personnes blanches au regard des blancs. Et au final, au regard un peu aussi de la communauté noire. C'est un phénomène qui existe depuis l'esclavage et la colonisation par chez nous. Hein. C'est très ancien. Et le passing, en fait, aidait à obtenir des privilèges. Je voulais juste citer chez les stars, des stars qui sont white passing. On peut citer Meghan Markle, récente épouse du prince Harry. Il y a aussi Rashida Jones, Maya Rudolph ou encore Wentworth Miller. Je ne savais pas.
Il est noir, lui. Il est noir et plein voilà. De métissage d'origines différentes et okay. Tout.
Donc le white passing, c'est on ne voit absolument pas que t'es noir, sauf si on te connaît, on connaît ta famille. Et à Hollywood, d'ailleurs, ça permet à ces personnes d'obtenir des rôles qui sont normalement réservés aux blancs, quoi. Mais contrairement à ce que Rachel Dolezal affirme, pour moi, le passing, c'est une souffrance. Parce que tu sors de ton identité noire, mais tu te retrouves en dehors. Mais c'est pas une volonté. C'est on te dit non, en fait, tu n'as pas l'air d'être noir, donc t'es pas noir. Ou alors les blancs te prennent pour un blanc. C'est pas du tout un choix, en fait. C'est pas du tout un choix, genre, ça peut le devenir de, comme une conséquence, mais c'est pas un choix de se dire ah, en fait, c'est cool, je suis blanche, quoi, ou je suis blanc. Et c'est pas du tout dans cette démarche d'appropriation culturelle non plus. C'est un fait qui est là, c'est t'as l'air d'être blanc, quoi. Et on peut aussi parler du livre J'irai cracher sur vos tombes, de Boris Vian, en fait, où le héros est noir et personne ne s'en aperçoit, et il utilise ça vraiment pour se venger, quoi.
J'ai vu un exemple intéressant de black passing, de gens qui ne sont pas noirs mais qui sont passés pour noirs. Il y a un type qui s'appelle Vijay Chokalingam et qui est d'origine indienne. C'est le frère de l'actrice Mindy Kaling.
Ouais.
Et pour intégrer une fac de médecine aux États-Unis, il s'est rasé la tête et il s'est fait passer pour un noir. Parce qu'en disant qu'à cause de la discrimination positive, c'est plus facile. Alors, c'est un personnage hyper controversé. Il soulève quelques points intéressants. Néanmoins, il parle du facteur Pocahontas, c'est-à-dire du fait que beaucoup de gens qui sont en fait des blancs 6 jours sur 7 et qui ont un huitième de sang autre pour postuler à la fac, etc.
Il dit, je suis un quart Cherokee.
Et donc il remet en cause, par exemple, en 2017, les admissions de Harvard, l'université la plus prestigieuse des États-Unis, dit la majorité de nos recrues sont des minorités. Il remet ça en question parce qu'effectivement, il y a 11% de latinos, 14% d'afro-américains, 22% d'asiatiques et 49% de blancs. Mais sur les asiatiques, par exemple, il remet beaucoup en question. Est-ce que tout le monde est vraiment asiatique? Est-ce que tout le monde est vraiment noir? Socialement, la majeure partie du temps. Sauf que le monsieur devient très problématique et qu'à la fin de son interview en 2017 sur CNN, il explique que Donald Trump est le nouveau Lincoln.
As I said, President Trump will end affirmative action like Lincoln ended slavery.
Goodbye.
Et qu'il va supprimer la discrimination positive comme Abraham Lincoln a supprimé l'esclavage aux États-Unis.
Putain. Elle doit avoir trop honte de lui, Mindy Kaling, parce qu'elle en parle jamais.
Ouais. Moi, ce docu, il m'a évoqué une réflexion. Toujours le passage, vous savez, où elle est dans cette université, où elle est face à des femmes noires. Il y a une des femmes qui prend le micro pour la session questions-réponses et qui remet en cause la légitimité de Dolezal à se revendiquer noire et qui lui dit notamment « Moi, j'ai dû gagner le droit de m'appeler une femme noire et vous n'avez pas passé ce rite d'initiation. » Ça m'a vraiment inspiré parce que j'ai le sentiment... L'une des raisons pour lesquelles l'affaire de Dolezal m'a, à titre personnel, fasciné, mais également un peu révulsé, c'est justement le white privilege qui est dedans. Être blanc, c'est être un humain avant tout. En passant toutes les barrières et tous les clivages, c'est être vu d'abord comme un individu avant tous les stéréotypes, ouais. Avant tous les clichés. Et donc c'est le fait justement de pouvoir un peu faire ce qu'on veut comme ça, et notamment naviguer dans les différents mondes. Et je trouve que l'identité noire, contrairement à d'autres identités, et ensuite je n'ai pas été dans la peau d'autres types de minorités, c'est une identité qu'on gagne en fait. Une identité qui s'acquiert, où il faut un peu plus lutter que les autres. Ce n'est pas une identité décernée. La question de l'identité est assez importante, je pense, et assez spécifique à nous. À titre personnel, ça fait des années que je me prends la tête sur le fait d'être noir et sur le fait d'être entier, de savoir ce que c'est. C'est une lutte interne, tu vois. Ça commence par des lectures, ça commence par Césaire, Fanon, Glissant. C'est le combat pour acquérir une masculinité équilibrée qui soit pas dans les clichés de la masculinité noire, qui est plus toxique et plus, avec plus d'injonctions que la masculinité, on va dire, blanche, classique. C'est le fait d'avoir l'impression qu'on est obligé de lire certains trucs. Ah, tu connais pas Malcolm X, alors t'es noir, mais faut quand même que tu fasses du rattrapage. C'est le fait de changer ton regard sur tes propres traits physiques. C'est le fait que je me prends la tête sur avec qui j'ai le droit de sortir ou pas. Est-ce que si je sors avec une blanche, c'est vu comme, est-ce que je suis moins noir ou est-ce que tu vois comment ça se passe? C'est le fait que tu vois, par exemple, je suis anti-M et je sais pas danser le zouk, tu vois. Et
oh, ça,
c'est
quoi?
Ben, c'est vu problématique.
Tu seras pas en Martinique en juillet, toi?
Si. Non, mais j'ai déjà eu des discussions aux Antilles qui m'ont en quelque sorte créole chez mais, tu vois. Donc c'est un truc sur lequel je travaille, tu vois, ce sentiment parfois d'être un anti-M non légitime, tu vois. Et même ce podcast, depuis qu'on fait ce podcast ensemble, je me pose des questions. Est-ce que je suis légitime à parler de l'expérience noire alors que depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je vis en blanchité totale et que je compte mes amis noirs sur les doigts d'une main, tu vois. Donc c'est des trucs, C'est pas grave, Rachel. C'est pas grave d'avoir des conflits internes et des conflits d'identité, des questionnements. On en a tous. Et même moi, qui suis homme noir à 100% pur jus, j'en ai tous les jours et je n'arrêterai jamais d'en avoir.
Est-ce qu'on peut dire que t'es cis noir par rapport à Rachel qui est trans noir?
Exactement. Et donc, c'est ça qui m'énerve. Donc pour conclure, j'aimerais bien vous citer aussi un article d'une journaliste qui s'appelle Denise Milner, donc qui a été écrit sur le site de la NPR et qui s'intitule « Pourquoi Rachel Dolezal ne sera jamais noire ?» où elle, en fait, Milner compare la blackness à un diamant que tout le monde veut s'approprier, mais c'est aussi un diamant qui est créé par des températures extrêmes et des pressions également extrêmes, comme les vrais diamants, finalement, et qui se trouve dans le noyau même d'un être humain. Donc moi, le sentiment final de ce docu, c'est que si même moi je doute parfois, je doute constamment même d'être légitimement noir et que je me pose la question tous les jours, et je suis pas le seul, et t'as des gens comme Childish Gambino qui se posent aussi, je pense, la question. Si moi je doute du fait d'être légitimement noir, honnêtement, je refuse qu'une meuf comme Rachel Dolezal vienne s'asseoir à la table et dise non mais je suis noir quoi qu'il arrive, quoi que vous me disiez.
Mélanie, cette semaine, tu réponds à Mélissa.
Exactement.
Elle nous a contacté où, Mélissa?
Elle nous a contacté dans les Instagram DM. C'est donc vrai. C'était pas gagné que je la trouve, mais je l'ai trouvée.
Ah, cool. Et elle a une question.
Elle a une question.
Identitaire.
Donc, que je vais vous lire.
Ah.
Je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans. Je suis métisse, mon père est blanc et ma mère est noire d'origine malgache, indienne et aborigène australienne. Elle est née en France dans les quartiers nord de Marseille. Elle est le parfait produit d'immigrés première génération dans les années 60. Elle a gommé toutes les traces de ses origines. Elle n'a pas voulu apprendre le malgache. Elle est très chic, très mince, toujours très apprêtée et souriante. Elle rêvait de tomber amoureuse d'un blanc, et c'est ce qu'elle a fait. J'ai un frère jumeau et c'est de lui qu'il est question. On ne se ressemble pas du tout physiquement, il est plutôt typé indien, peau plus claire que moi et cheveux lisses. Moi, je suis plutôt foncée et j'ai une afro. Nos parents nous ont élevés dans la périphérie de Marseille, dans un quartier assez bourgeois, très blanc. Ma mère ne nous a pas du tout élevés dans la culture malgache. Mes parents sont toujours heureux de dire qu'ils sont tous deux marseillais avant tout. Et ma mère a une expression qu'elle utilise parfois qui m'horripile, « je n'en ai que la couleur », pour dire qu'elle ne se sent pas africaine. Quand on est devenu adulte, mon frère et moi avons pris des chemins très différents. Il est parti à Buenos Aires, puis s'est installé à Paris. J'ai fait une année de césure à Londres, puis un échange en Uruguay, et aujourd'hui je vis à Berlin. J'ai vécu mes voyages vraiment comme un choc, la découverte que j'étais une femme noire et de ce que ça voulait dire. Surtout quand j'ai vécu en Uruguay, un tout petit pays dans lequel on compte plus de vaches que de gens et où il y a très peu de personnes racisées. Je suis depuis assez activiste et militante. Mon amour est également métisse, ce qui m'a d'autant plus sensibilisée. Mon frère jumeau est donc venu nous rendre visite à Berlin et lors de notre dernier repas au restaurant, il nous fait remarquer que mon mec et moi, on parle beaucoup de race. On parle beaucoup du fait qu'on soit racisé. A brown couple. On a parlé de Black Panther, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes racistes à Berlin et qu'on est souvent les seuls noirs à des soirées ou dans des restos. Il m'interpelle en me disant donc qu'on n'a pas été élevé comme ça et qu'il ne comprend pas du tout d'où me vient cet activisme. Il me dit qu'il ne se sent pas noir, que lorsque je mets des tissus brésiliens dans mon afro, je m'approprie une culture qui n'est pas la mienne, que je suis une imposture, que je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, que lui ne voit pas les couleurs et surtout pas la discrimination, et qu'il faut que j'arrête de me positionner en victime. Alors voilà ma question. Comment lui faire comprendre? Comment lui expliquer que lorsque j'ai vu des belles afros au Brésil, je me suis dit « Ah, mais je peux faire ça avec mes cheveux !» et que j'ai énormément souffert du manque de représentation. Et que même si j'étais élevée dans une culture blanche, j'ai eu des gros problèmes d'identité parce qu'on me renvoyait une image de non-française, de femme noire. Et qu'on m'a appelée la Africana, qu'on m'a demandé si vraiment je venais de France pendant un an. Et surtout aussi qu'il est un homme, donc évidemment on va pas lui toucher les cheveux et lui dire que les Africaines ont vraiment de belles formes et que c'est pour ça qu'on les adore. Merci. Alors, moi, quand j'ai reçu ce message, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que je me suis reconnue un peu dans ton cheminement, Mélissa. Et je trouve qu'en fait, ton message représente la situation d'énormément de personnes racisées en France. Des gens qui sont issus de l'histoire de la colonisation, qui sont métissés, qui ont deux parents de couleurs et de cultures différentes. Dans le cas où l'un des parents est blanc et que les enfants sont élevés en France métropolitaine, il y a souvent eu des efforts d'assimilation. Alors, plus que la simple intégration, l'assimilation, ça revient à adopter vraiment la croyance française de l'universalisme total, à savoir que si on gomme ce qui nous identifie comme autre, comme étranger, on aura alors la chance de devenir complètement français. Donc, exit le langage maternel, parfois même exite le côté familial de l'étranger dans son entièreté. C'est mon cas. J'ai rencontré ma famille de Côte d'Ivoire que l'année dernière. L'assimilation et l'intégration, ce sont des outils idéologiques en fait, qui ont été créés par l'État pour s'assurer, entre autres, de la loyauté des populations immigrées. C'est en quelque sorte la carotte. Les générations immigrées des années 60 aux années 90 sont très attachées à ces notions. On est français parce qu'on ne revendique surtout pas ses origines ou sa culture natale. On s'habille à l'occidental, on parle à l'occidental, on cuisine à l'occidental et on vit à l'occidental. Tout ça dans l'espoir, un peu fou, d'échapper à la violence du racisme et des discriminations. Et la phrase « je n'en ai que la couleur », en fait, c'est ça que ça illustre, vraiment. Le problème, c'est pour nous, les enfants, que ça se pose. Parce que nous, on est nés ici, en fait. On est déjà assimilés. On est censé déjà être des Français pur sucre. Et pourtant, le bas blesse, un enfant à l'école refuse un jour de nous donner la main parce qu'on est noir. Un autre compare notre couleur de peau à du caca. Un membre de la famille blanche nous dit qu'on ne sera jamais accepté nulle part parce que la société n'est pas prête. Quelqu'un sur le mur du collège écrit « rentre dans ton pays ». On nous traite de bounty, noir dehors, blanc à l'intérieur. On nous demande tous les jours vraiment d'où on vient, mais vraiment. Et Caen et Marseille, en fait, c'est pas la réponse qu'on attend. En bref, l'assimilation tant attendue n'a pas vraiment les effets escomptés, quoi. Et petite note, toutes ces anecdotes, c'est des choses que j'ai vécues. En vrai, c'est une question de stratégie. Ton frère et toi, vous n'avez pas la même stratégie de survie. L'assimilation, en fait, comme le fait de se vivre comme français sans couleur et de jamais parler de race, c'est une manière en fait de survivre, de se soustraire au racisme visible. C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Au final, moi, je pense personnellement qu'on est toujours rattrapé. Après, tu dis que ton frère vit comme un homme blanc. Mais seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs, en fait. Donc ton frère, pour moi, je pense qu'il a sûrement connu des moments de racisme.
Belle formule, Mélanie. Seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs.
C'est vrai.
Blanc reconnaît blanc.
J'ai trouvé mon deuxième tatouage.
C'est vrai. Et je pense que son frère, il a déjà sûrement connu des situations de racisme, mais qu'il a peut-être pas, en fait, analysé en tant que tel, quoi. Ou il les a minimisées. Et la sous-représentation dont Mélissa parle, en fait, c'est une violence raciste silencieuse pour moi. L'objectification, l'exotisation du corps noir, qu'elle mentionne aussi, c'est aussi sûrement des choses que son frère a dû vivre. Mais c'est pas la même chose qu'elle avec ses cheveux, mais pour moi, c'est quelque chose qui est inhérent, quoi. Et puis, il y a la stratégie de Mélissa, qui est de discuter ouvertement de ces questions, de se demander l'influence qu'elles ont eue sur nos vies de personnes racisées, de se demander si le système est vraiment aussi impartial, je mets des guillemets, qui nous dit qu'il l'est. Et puis, c'est aussi le courage de retourner vers ces racines qui ne nous ont pas été transmises. Vers la langue, les pays, les ancêtres, qui en fait sont une partie de nous. Font vraiment partie de nous. Et au final, c'est aussi s'attendre, comme à l'inverse de la Africana, à se faire appeler la blanche quand tu rentres en Afrique, parce qu'en Afrique, les métis sont considérés comme des blancs. Alors même si ton frère ne se sent pas concerné par cette culture, vous êtes pourtant les descendants directs. Votre maman aussi, et pour moi, vous êtes légitimes. Cette question d'appropriation culturelle qui soulève, c'est intéressant et c'est important. Parce que c'est votre culture, mais vous ne la connaissez pas vraiment, en fait, parce que vous n'avez pas vécu dedans. Donc, il faut la découvrir. Et pour moi, si elle est importante pour toi, cette culture, et si tu apprends vraiment à la connaître de l'intérieur, que tu discutes avec ceux qui la font, que tu recherches son histoire, vraiment, et que tu lui montres une vraie appréciation, personnellement, je ne vois pas le problème. Pour moi, chaque stratégie, l'assimilation ou l'acceptation, ça tend à un objectif, c'est se relier à un sentiment d'appartenance. Quand tu t'assimiles, tu te dis, bah, en fait, je suis français, je suis blanc. Et quand tu essayes de t'accepter tel que tu es, donc métisse, tu cherches aussi ta place, au final, dans la société. D'un côté comme de l'autre, pour moi, les métisses, ils n'ont pas à avoir honte de leur métissage, de leur double culture. Et le monde n'a pas à être prêt, comme ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Et personne, pour moi, ne peut te dire comment tu dois vivre ton métissage au final, et pas même ta famille. Voilà. Merci Mélissa pour ton message.
Les recommandations du chip.
Ce week-end, j'étais à Wheel of Green, les deux jours, ça a été sportif. Et j'ai pu revoir en concert mon chouchou. L'album que j'ai le plus écouté de l'année 2017,
Frankie
j'arrête
Vincent,
pas de le dire. Non, c'est pas Frankie Vincent, Mélanie.
Pardon.
L'album que j'ai le plus écouté de l'année 2017, c'est Flower Boy de Tyler, the Creator. Et c'est un mec qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'était la deuxième fois que je le voyais en live, mais à l'époque, il était un peu moins connu. C'était avec son groupe Hot Future. Et en fait, la première chose que je vais vous dire, c'est de faire attention aux adolescents blancs en concert. Parce que maintenant, Les mosh pits dans les concerts de hip-hop, c'est juste
indécent. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que t'es devenu un peu vieux ?
Je me suis dit ça, mais j'en ai quand même fait des concerts.
Totalement, Kevin. J'étais au concert de Future avec toi, tu ne bougeais pas d'un iota.
Non, mais mec, ça n'a rien à voir. Là, je te jure, on a vu des gens disparaître. On a vu... Dernier exemple, j'ai eu un bleu. J'ai eu 3 bleus dans ma vie.
Frère, franchement.
Moi, j'ai pas dansé.
On a été au concert de Jay Huss. T'as pas bougé.
Mec, tu m'as vu samedi ou tu m'as pas vu samedi?
Si, je t'ai vu samedi.
Je dansais pas.
Ok, tu dansais. En marge.
Bon. J'étais pas du tout en marge. Bref, tout ça pour dire que l'album de Tyler est mortel et il date de l'année dernière, mais allez le réécouter. Tyler the Creator repasse à Paris les 15 et 22 juillet dans une configuration totalement différente puisqu'il va jouer au Baiser Salé qui est un club de jazz dans le centre de Paris, donc j'y serai le 22 juillet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dernier truc, si vous vous intéressez un petit peu à Tyler et que comme moi vous êtes un gros fan de son travail, je vous recommande une vidéo d'une interview qu'il a faite avec un humoriste qui s'appelle Gerard Carmichael, qu'on peut trouver sur YouTube. Et
t'en as déjà parlé de ce monsieur ?
J'en avais déjà parlé, effectivement, dans l'ancien type de Gerard Carmichael. Mais cette vidéo, donc, ça s'appelle Flower Boy, A Conversation. Et pendant une heure, il discute des inspirations de l'album. On apprend plein de trucs.
This album, I feel like the only like appropriate question to ask you after listening to it is, are you okay? Like, is something wrong? like it's like gut-wrenching. It's both beautiful, it's very beautiful, but it's like parts that hurt a little bit. You know what I mean?
Yeah, it's, man, I was like, because for Cherry Bomb, I purposely was like, I don't want to get personal at all.
Il est hyper drôle, hyper talentueux. Je pense notamment à un morceau qui s'appelle Who That Boy et qui, sur scène, est assez violent.
Who That Boy? Who
parce
that
que
bit?
Quand ça drop,
Who That Boy?
c'est juste complètement insensé.
Who That Boy? Who him is? Him that nigga, I swear. Stand out guy, him don't need no chair. Well, where the fuck him at? Cause nigga, I'm right here. I don't shop at the mall, all y'all just dumb motherfucker. I'm a goddamn artist. You can give me some markers and I draw you a closet. And you know that it's golf, bitch, gonna make the deposit.
Plein de love sur Tyler the Creator et sur Will of Green, c'était extraordinaire.
La prod était destinée à Schoolboy Q, en fait, qui l'a refusé finalement.
Et c'est à sa proqui qui a posé sur Will of
Green. Ouais.
Allez au Baiser Salé le 15 ou le 22 juillet, il reste une quarantaine de places et c'est 13€ par personne, c'est pas cher.
Je vais vous parler d'un podcast qui est pour moi un peu la version américaine du Chip, c'est le podcast Keep It. C'est un podcast en anglais qui est animé par le journaliste critique culturel Ira Madison III et ses acolytes Cara Brown et Louis Virtel.
And we're back with an all-new Keep It. This is Ira.
Cara.
Louis.
Donc le nom du podcast est dérivé d'un gimmick un peu d'Ira qui l'utilise sur Twitter quand un truc l'énerve ou le dégoûte. Un peu comme nous en fait, avec le Chip.
Garde ça.
Donc garde ça. C'est un podcast de talk, hein, c'est assez classique dans la forme, mais les sujets pop culture sont toujours intéressants, les vannes sont drôles, et comme le podcast a du clout, parce qu'il est produit par la maison Crooked Media, ouais. Y a toujours des invités cool, et moi c'est ça que j'aime bien en fait avec Keep It. Par exemple, ils ont reçu notamment Justin Simien, le créateur de Dear White People, qui est venu parler de Beachella. C'était quand même cool. Ou plus récemment, ils ont reçu Brian Fuller, le créateur de Pushing Daisies et Hannibal, et qui est venu parler de la nouvelle ère des séries TV à l'heure de l'annulation de Roseanne. Je ne sais pas si vous avez tous suivi cette histoire avec le tweet raciste qui a fait que...
La planète des singes et les frères voilà, musulmans, c'est ça ouais,
c'est ça,
assez moche. Ouais.
La comédie la plus regardée des États-Unis a été annulée. Keep It, moi je trouve que j'aime bien parce que c'est léger, c'est intelligent, c'est divertissant. Et puis voilà quoi. Et puis une fois que vous avez écouté Keep It, vous pouvez écouter le Chip ou vice versa. Donc tout va bien.
Alors moi j'ai deux recommandations, une fois n'est pas coutume. Alors la première, c'est un salon qui est dédié au textile africain et qui s'appelle African Tex, African Textile, qui aura lieu à Paris dans la galerie Joseph Saint-Martin dans le 3e arrondissement les 15 et 16 juin. Donc en fait, il y aura des fashion shows, il y aura des concept stores, il y aura des talks, il y aura des conférences, donc avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnalités du secteur qui donc vont promouvoir le textile africain, mais qui vont également parler de son avenir et de son économie. Il y aura également un coin gastronomique, il y aura pas mal d'exposants, notamment la marque Bazarapine Kim que moi je connais un petit peu. J'avoue que les autres exposants, je les connais pas forcément. J'en cite quelques-uns. Peul Vagabond, Cory Wade, Sina Yaba qui est la marque de prêt-à-porter de l'une des deux cofondatrices du salon. Donc Sina Yaba et Dora Kingwe. J'espère que j'ai bien prononcé le nom Dora Kingwe. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de prononciation. Voilà, donc pour rappel, ça aura lieu le 15 et 16 juin. J'espère pouvoir être là. Je n'ai pas les moyens de me payer du Maison Château Rouge et donc je vais aller là-bas pour voir si je peux pas me payer une bonne chemise en wax.
Le wax trop cher.
Le wax gate. Et ma deuxième recommandation, c'est de la musique. C'est un chanteur nigérian, un jeune chanteur nigérian, un chanteur et producteur qui s'appelle Odunsi The Engine. Alors, en fait, l'autre jour, je lisais une interview de Runtown. Je ne sais pas si vous connaissez Runtown.
Nope.
Ah, c'est une superstar de la scène nigériane. Je vous conseille vraiment d'écouter For Life, notamment, qui est un putain de morceau. Et donc, en gros, l'intervieweur lui demande s'il y a des chanteurs émergents à, genre, à moins de 80 000 vues, tu vois, sur YouTube à découvrir. Et donc, il cite Odunsi The Engine. Odunsi, donc, il est originaire de Lagos au Nigeria. Il est actif depuis 2 ans et sa musique, il la qualifie d'afro-fusion. C'est un mélange de hip-hop, de dancehall, de R&B, d'afrobeat. Comme vous pouvez en entendre par exemple chez Burna Boy. Il a 2 EP disponibles sur Spotify. Je vous conseille vraiment d'écouter. Mes 4 sons préférés sont Desire, Alte Cruz, Gangsta Fear et In The Morning. Si vous n'aimez pas In The Morning, vous pouvez me bloquer sur Twitter et arrêter d'écouter le chip. J'en mets ma main à couper. Franchement, In The Morning, ça tue. I really want to contemplate, so I think it's best I say to you. You better watch your ways, 'cause you know. C'était le chip, avant dernier épisode de la saison. Et dans 15 jours, on se retrouve pour un numéro spécial football et Coupe du Monde. Et on aura un invité. Un featuring. Mélanie, où est-ce qu'on retrouve le chip ?
Comme d'habitude, on est sur Twitter, Instagram, sur @lechippodcast.
C'est ça.
On a passé les 1300 followers sur Instagram et je crois 2000 followers sur Twitter.
C'est le bon chiffre. Qu'est-ce qu'on souhaite ?
De rester frais.
Laissez-nous une review.
Voilà, faut laisser des reviews sur Apple Podcasts et toutes les autres plateformes où vous trouvez vos podcasts. 5 étoiles s'il vous plaît, des reviews positives. Et puis si comme Mélissa, vous avez aussi d'autres questions, des conseils, des remarques, tout ça, ben, n'hésitez pas. Et puis cette émission a été réalisée par Charlie Marcellet, qu'on remercie, à qui on fait des bisous. Bisous Mélanie.
Bisous Kevin.
Bisous François.
Bisous Kevin.
Bisous François.
Dans 15 jours.
Bisous Mélanie.
Bye.
Arte Radio.com.